Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'Université de Nîmes Campus de Mende, 48 FM et Lozère Développement grâce au programme DEFIOC de la région Occitanie.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi et demi, bienvenue dans ce nouveau numéro de 48 Digital. Nous sommes en direct du pôle lozérien d'économie numérique sur la radio 48 FM et les pages Facebook et YouTube de Lozère Développement pour une émission réalisée avec le soutien du programme DEFIOC de la région Occitanie. Je suis Marine, je serai votre présentatrice de ce jour. Je suis étudiante en licence professionnelle CNEA de l'antenne universitaire de Nîmes-Amande et je suis accompagnée de mes trois camarades de classe, Camille, Dylan et Sarah. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer un univers où les frontières entre le réel et le virtuel n'existent plus, la réalité étendue. La réalité étendue englobe la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité virtuelle. On laissera, dans cette émission, nos invités la définir. Alors que la réalité étendue devient une technologie de plus en plus accessible, elle soulève des questions fondamentales qui nous concernent tous. Pour répondre à nos questions et nous partager son analyse du sujet, Aurélien Foisse nous fait l'honneur d'être présent pour cette émission.
Bonjour.
Bonjour Aurélien, ravi de vous accueillir. Donc vous êtes co-gérant chez AFA Multimédia. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre formation, vos expériences professionnelles ?
Alors, je co-gère AFA Multimédia, une petite agence de communication créative depuis 2004 avec Quentin Belin, mon associé. Au niveau formation, en tout cas pour ma part, j'ai plutôt une formation technique de développeur à la base. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé en Lozère. Grâce à la licence formation métier du multimédia à l'époque, j'ai découvert l'univers du web et de la communication et je me suis installé là-dedans.
Pouvez-vous nous parler de votre entreprise et des tâches que vous y effectuez, si vous avez des projets particuliers en cours ?
Alors, nous, au niveau de l'agence, on est une agence de communication qu'on qualifie créative parce que vraiment, on essaye d'expérimenter tout un tas de choses, de solutions et de supports pour accompagner des professionnels, des collectivités, des associations, parfois même des artistes dans leurs besoins de communication au quotidien. Et aujourd'hui, on appelle ça une agence à 360, c'est-à-dire vraiment, on va accompagner des pros ou des besoins, de la petite carte de visite jusqu'au flocage d'un véhicule, en passant par la création de sites web de tout type, d'applications métiers, voire même des solutions sur mesure, y compris même des interfaces un petit peu originales, telles que la réalité virtuelle.
Parfait. Et comment vous pourriez nous définir la réalité étendue ?
Alors, moi, je suis pas un gros spécialiste, mais étant amateur de technologie, c'est vrai que tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, était un petit peu cloisonné. C'était des technologies et des usages un petit peu qu'on percevait un petit peu particuliers, en tout cas qui étaient cloisonnés. Et la réalité étendue, je pense qu'aujourd'hui, c'est le terme pour englober toutes ces technos et tous ces usages en une seule type d'interface où le virtuel se mêle au réel avec une immersion totale grâce à des casques par exemple.
Ok, merci beaucoup. Et comment vous êtes arrivé dans le domaine de la XR et qu'est-ce qui vous passionne dedans ?
Alors moi c'est comment je suis arrivé là-dedans, je dirais que ça remonte à loin, c'est par les jeux vidéo. Voilà, on a 5-6 ans, premier ordinateur, on fait bouger des choses sur un écran, des petits bonhommes et tout ça, bah, c'est là où on est mordu. De fil en aiguille, bah, on avance, on devient développeur, on développe des petits jeux sur sa calculatrice pour faire marrer les potes à l'école. Et puis on devient créateur d'une entreprise, d'une agence de communication et la passion elle est toujours là. Donc en parallèle de ça, bah, j'aime bien développer, expérimenter. Quand les premiers casques Meta sont sortis, c'était un petit peu plus accessible au niveau budget. Donc je m'en suis acheté un pour le plaisir, on va dire, hein, pour aller voir ce qui s'y passe, faire des jeux vidéo, tout ça. Ça n'a pas traîné, hein. Au bout de 3 jours, je l'ai passé en mode développeur, j'ai voulu voir comment ça marchait et comment on pouvait développer des jeux avec. Et de fait, on a amené ces expériences, ces recherches au sein de l'agence. Et puis on s'est dit, bah tiens, il y a des choses à faire. Et on a commencé à faire de la R&D et de la veille techno autour de la technologie, mais aussi des usages qu'on pourrait avoir avec ces technos-là.
Merci. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en développant des projets en XR ?
Alors, vraiment, le plus gros projet que nous, on a fait, ou en tout cas, on nous a donné l'opportunité de le faire, c'est une petite application pour se balader sur une carte et être en immersion avec des vidéos 360 et 180 stéréoscopiques pour l'office Gévaudan Authentique à Marvejols. Et donc l'idée là, c'était au sein de l'office de tourisme de proposer donc différents casques avec une petite visite du territoire, en tout cas certains points remarquables tels que le parc des loups, le parc des bisons, des points aussi culminants, des trucs, le pic du Midi, ainsi de suite. Montrer aussi les différents villages de la communauté de communes. L'idée c'était de transporter les gens par ce biais-là, de leur donner un aperçu et ensuite de leur donner envie d'aller visiter. Les plus grands défis, en fait, lorsque on utilise un casque de réalité virtuelle, ça va être l'accessibilité, le pouvoir se mettre directement, faciliter en tout cas l'immersion par l'installation du casque, parce que ben, tout le monde n'a pas le même regard, tout le monde n'a pas la même taille, tout le monde n'a pas la même sensation ou appréciation une fois qu'on se retrouve immergé dans ce monde-là. Donc on se pose des questions au niveau du tournage et de la captation des contenus, puisqu'on a été créateur des contenus et des vidéos aussi. Donc est-ce qu'on le met sur un drone et auquel cas ben, il va y avoir de la sensation, mais est-ce que tout le monde va apprécier la sensation? Est-ce qu'on les met en mouvement? Est-ce qu'on les met en fixe, ainsi de suite. Donc on devait toucher du grand public et ça c'était la première question de l'usage derrière. Donc on y a répondu avec des vidéos courtes, avec le moins de mouvements possible ou alors des mouvements très lents et des fondus au noir pour pouvoir avoir un changement assez fluide et doux lorsque vraiment on changeait de géométrie ou de plan en fait. Ensuite c'est posé la question de l'accessibilité. Est-ce que je propose de voir un corps ou pas lorsque je suis dans le monde? Si je fais 1m80, ok. Si je suis un gamin de 10 ans ou une personne de petite taille, est-ce que ça fonctionne aussi? Si je viens en fauteuil roulant, est-ce que ça fonctionne aussi? Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on s'est retrouvé confronté à faire une petite application pour le grand public et j'avoue que c'était assez passionnant.
Ok. Et du coup, quel retour avez-vous eu du public et des professionnels sur cette expérience?
Alors, par l'intermédiaire des personnes, des professionnels à l'office de tourisme, on a eu différents retours. Alors, il y a forcément d'entrée de jeu le côté sensationnel qui ressort. Donc, de suite, c'est très ludique parce que c'était assez nouveau pour les personnes. Il y a vraiment cet effet où on passe dans un autre monde et puis quand on l'enlève, le retour à la réalité, il est un peu particulier. Donc c'était au niveau sensation, côté ludique, découverte. En soi, le contenu, il a été apprécié parce que on a un petit peu galéré, notamment au parc des bisons, à être au milieu des bisons, à tourner. Enfin, c'était pas le plus réconfortant, on va dire. Mais au moins, on a offert un point de vue qui était difficilement atteignable pour les gens. Et donc là, ça leur provoquait un petit peu des sensations. Le lever au-dessus des lacs d'Aubrac ou de la cascade du Déroc, bah, pareil, ça a donné des sensations aux gens et ça leur a permis, voilà, de façon ludique, de découvrir des points de territoire et de s'y intéresser.
Super, merci. Vu que l'on parle de réalité étendue dans le cadre du tourisme en Lozère, le musée archéologique de Javols s'est doté de cette nouvelle technologie. Pour en savoir plus, nous retrouvons Camille.
Oui, merci Marine, bonjour à tous. Qui a dit qu'on ne pouvait pas voyager dans le temps? À Javols, pas besoin de DeLorean ni de potions magiques, un simple casque VR suffit pour vous téléporter en pleine époque gallo-romaine au cœur d'Anderitum. Équipé d'un casque VR, vous pouvez parcourir le forum, admirer le théâtre et plonger au cœur de la vie gallo-romaine. Une véritable rencontre entre histoire et technologie qui redonne vie à un patrimoine millénaire. Et Javols n'est pas un cas isolé. Partout, la réalité immersive révolutionne la culture. Prenons l'exemple des grottes de Lascaux, fermées au public depuis les années 60. Ces grottes mythiques sont désormais accessibles en réalité virtuelle. Grâce à des reproductions précises et des projections interactives, on explore ces trésors préhistoriques sans risquer d'endommager les originaux. Résultat, une plongée fascinante dans l'art des premiers Homo sapiens. Mais cette technologie ne sert pas qu'à ressusciter le passé. Elle transforme aussi l'art contemporain. Des applications comme celle proposée par le Louvre, permettant de voir Mona Lisa sous un autre angle, avec des anecdotes et des détails invisibles à l'œil nu. Grâce à la XR, les visiteurs peuvent observer la texture des coups de pinceau, détecter des esquisses cachées sous la peinture, ou encore replacer l'œuvre dans son contexte historique. Autre grand atout du métaverse, l'accessibilité. Grâce à la VR, plus besoin de traverser le globe pour atterrir en Chine et découvrir des temples disparus qui renaissent en 3D, ou pour visiter le British Museum. Les personnes éloignées ou à mobilité réduite peuvent désormais explorer les plus grands musées depuis chez elles. Même la musique s'y met. Le 25 décembre 2023, Jean-Michel Jarre a célébré les 400 ans du château de Versailles avec un concert-spectacle intitulé Versailles 400. Équipé du casque français de réalité mixte Lynx, il a donné une performance simultanément devant un public réel dans la Galerie des Glaces et dans le Métaverse, incarnant son avatar au centre d'une Galerie des Glaces futuriste avec un public virtuel connecté. Alors bien sûr, tout cela soulève des questions. Peut-on vraiment ressentir la même émotion devant une œuvre virtuelle que face à l'original? Et si à force d'écran, on finissait par s'éloigner du monde réel? En tout cas, une chose est sûre, concerts immersifs, exposition en réalité augmentée, visite interactive, la culture n'a jamais été accessible et innovante, et cela, c'est plutôt réjouissant.
Merci. Merci Camille. Est-ce que vous souhaitez réagir à la suite de cette chronique?
Non, je pense que tout a été dit. Pour résumer, effectivement, le mix entre réalité et virtualité nous permet d'accéder à des points de vue qu'on n'aurait pas, on va dire, dans la réalité seule. Ouais.
Quelles avancées technologiques récentes vous semblent les plus prometteuses pour l'avenir de la XR?
Alors prometteuse, je sais pas, assez impressionnante en tout ce qui est XR, en tout cas réalité virtuelle, augmentée, etc. Pas tant sur les usages, mais technologiquement parlant, il y a quand même Apple qui a fait quelque chose d'un peu costaud, c'est-à-dire c'est pas vraiment un casque, il le présente plutôt comme un ordinateur du futur, ou avec une définition des puissances de puces assez poussées, vont permettre un traitement de données énorme pour un tout petit appareil. Et en fait, cette puissance technologique, elle permet d'avoir une définition assez énorme une fois qu'on est à l'intérieur et d'avoir un environnement de travail qui est directement dans notre espace réel. En tout cas, c'est ce qu'ils ont ambitionné au niveau de la création de ce matériel-là. Ce n'est pas destiné qu'à faire du jeu, du ludique, mais ils ont vraiment imaginé l'ordinateur dématérialisé avec ça sur les yeux. Quel avenir y donner, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vue de créateur, de techno, à un instant donné, qui permet d'avancer pas tant sur les usages, parce que ce n'est pas super répandu, en fait. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre de se payer un tel matériel juste pour faire de l'ordinateur, quoi. Donc, prometteur, je dirais que ce genre d'expérience va plutôt permettre d'affiner ou de pousser, en fait, des technologies, notamment au niveau des microprocesseurs, etc. Et là, la vague de l'IA greffée à cela pourra peut-être donner lieu à des nouveautés, je ne sais pas.
Et du coup, comment vous voyez l'évolution entre la XR et l'intelligence artificielle ?
Alors, moi, j'ai une vision peut-être un peu restreinte. Je dirais que elle va nous permettre soit d'être encore plus créatif et donc de créer des mondes, des immersions en tout cas dans des mondes assez sympas. Moi, la VR aujourd'hui, je la trouve intéressante sur le côté ludique. Donc l'IA va permettre d'enrichir, on va dire, les contenus parce qu'elle rend accessible la création. Mais en soi, à l'intérieur, je vois pas encore trop ce qu'elle peut apporter aux expériences. C'est-à-dire ce qu'elle va apporter dans ce monde-là, elle l'apporte déjà dans tout un tas de domaines, y compris nous, en création de sites web, en communication, en création graphique, etc. Et là, je vois pas plus, pas moins.
Selon vous, quels sont les secteurs qui ont le plus à gagner en intégrant la XR ?
Alors, moi, de mon point de vue, je dirais qu'il y a tout un secteur industriel avec la formation. Je pense que tout ce qui est donc XR cross-réalité, cross-reality, réalité étendue, est super importante pour la formation. C'est-à-dire former des personnes à l'usage de machines industrielles, de machines-outils qui peuvent être dangereuses ou autres, permet de travailler en sécurité en superposant vraiment la réalité et l'interface virtuelle dans un environnement dans lequel on est voué à travailler. Je trouve ça super intéressant. Éventuellement, dans l'accompagnement, en social ou en médical, je ne sais pas si c'est vraiment le domaine, mais par exemple au niveau des maisons de retraite, au niveau de certaines pathologies, je pense que créer des immersions, ça peut être super intéressant pour accompagner le développement de certaines personnes. Et puis le ludique, on voit de plus en plus d'espaces se créer pour vraiment le public des joueurs où on a des arènes de 500 mètres carrés dans lesquelles on évolue et on fait du e-sport. Voilà quoi. Bon, en tout cas, je vois ces trois domaines-là.
Pensez-vous que la XR est trop coûteuse ou complexe pour être adoptée en masse ?
Aujourd'hui, je pense que c'est devenu accessible. En tout cas un peu plus accessible, c'est le prix d'une console nouvelle génération, on va dire. Allez, ça se situe, si on y met un peu d'occasion, entre 400 et 800 euros. Donc c'est pas rien encore. Mais quand je vois le marché de la console, ce qui se vend, bah, les gens ont plutôt tendance encore à aller jouer sur de la console ou du PC. On le voit aussi en termes de production de jeux. Je pense que le collègue saura plus en dire à ce sujet-là. Mais c'est devenu accessible, mais les gens passent pas forcément le pas. Je pense que c'est pris encore comme une expérience ludique, un peu gadget. Une fois qu'on l'a, ben, on a essayé, on s'est amusé avec, mais on voit pas l'intérêt d'y aller régulièrement dessus. Je pense qu'il y a des applications plus de niche à développer avec ce genre de technologie, ou alors il faudra vraiment qu'elle soit, que l'usage en soit facilité, genre des lunettes, hop, je prends des lunettes, je les mets et c'est bon, c'est ok. Mais là, il y a encore tout un bazar, chaque fois il faut régler, c'est un peu lourd sur la tête, il y a des inconvénients aussi en termes de sensations, quoi. Certains sont un peu malades.
Comment une entreprise qui débute pourrait-elle intégrer la XR dans sa stratégie ?
Alors, quel type d'entreprise ? Plutôt une entreprise de la tech ou n'importe quel type d'entreprise ?
Oui, n'importe quel type d'entreprise.
Je pense qu'un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, une entreprise ou une industrie sur une chaîne de production qui aurait des besoins de formation à des systèmes complexes, voire à risque. Je trouve que ça serait intéressant d'intégrer en tout cas ce genre de techno pour la phase d'apprentissage, de mise à jour, etc. Et pourquoi pas aussi dans le milieu médical, l'apprentissage ou la recherche médicale, voilà, pour travailler sur du virtuel et non pas sur des corps, par exemple, en direct, quoi.
Nous avons appris que vous avez mené un projet au centre de Moroda auprès des jeunes en situation de handicap. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, c'était une expérience assez intéressante au point de vue de l'usage et de l'expérience humaine où Laurent Augier m'a invité à animer un atelier avec lui donc au centre d'éducation motrice, je crois, à Moroda. Et donc, pendant 2 heures, on a reçu différentes personnes, des jeunes et des jeunes adultes, avec différents niveaux de handicap moteur ou psychomoteur. Et là, on s'est rendu compte que la VR, juste ne serait-ce que le côté immersif de la VR, apportait déjà pas mal de joie, un côté ludique et des sensations que l'on n'avait pas forcément au quotidien. Et le point commun que j'ai retrouvé chez tous les participants de l'atelier, c'est chaque fois qu'on a enlevé le casque, ils ont eu la banane. Les expériences qui leur étaient proposées, c'était d'être en immersion dans des petites vidéos, soit d'animation, soit des vidéos à sensation, donc sauter en parachute, faire du wingsuit, voler au-dessus des chaînes de l'Himalaya ou nager avec les requins. Et on avait vraiment des réactions qui étaient franches, spontanées, et l'immersion, mais elle se faisait en 5 secondes. En 5 secondes, les personnes étaient dedans. Et pour ces personnes qui présentent ce type d'handicap, souvent, forcément, leur mobilité, tout ça est assez réduite. Et là, elles ont pu découvrir des sensations différentes.
Et est-ce qu'il y avait aussi des personnes en situation de handicap mental ?
Alors, je vais reprendre les mots des personnes qui aident et qui accompagnent ces personnes au quotidien. Effectivement, quand on est avec un handicap moteur, souvent, ça entraîne un handicap mental ou psychomoteur qui fait que le développement ne peut pas se faire... on va dire de façon normale, entre guillemets. Et donc, je pense que ça a déjà dû être fait, mais ces moyens-là, liés à des travaux moteurs, de mouvement, pourraient être une piste pour accompagner ces gens-là dans leur développement. En tout cas, une piste complémentaire à déjà tout ce qu'ils font. Ouais.
Super. Merci pour ces précisions. L'inclusion et l'accompagnement des jeunes en situation de handicap sont des enjeux essentiels et cela nous amène justement à parler de santé. Dylan, tu vas nous en dire plus sur ce sujet.
Merci Marine, bonjour à tous. Dans cette chronique, je vais évoquer la réalité étendue au service de la médecine et de la santé. Car oui, partout dans le monde, de nombreux pays sont impactés par cette technologie dans ce domaine. Établissements de formation et entreprises l'intègrent pour améliorer l'apprentissage, offrir des simulations réalistes et renforcer les compétences des soignants dans des environnements sûrs et contrôlés. En France, un exemple marquant est le CHU de Rennes, qui a mis en place un centre de simulation équipé de dispositifs de réalité virtuelle. Ce centre permet aux étudiants en médecine, aux infirmiers et aux urgentistes de s'exercer à gérer des situations d'urgence telles que des arrêts cardiaques, des accouchements complexes ou encore des polytraumatismes. Grâce à des simulations réalistes dans un environnement virtuel, les apprenants peuvent répéter les gestes autant de fois que nécessaire pour perfectionner leurs compétences avant d'intervenir sur des cas réels. À l'échelle internationale, des outils immersifs comme UbiSim sont également utilisés pour créer des scénarios virtuels destinés aux étudiants en médecine. Ces plateformes leur permettent de pratiquer des soins sur des patients virtuels dans un environnement réaliste avant de faire face à des situations similaires dans la réalité. Cette approche réduit les risques et renforce la confiance des futurs professionnels de santé. C'est le cas de l'Institut et Haute École de la Santé de la Source, en Suisse, qui a intégré la réalité virtuelle dans ses formations en partenariat avec UbiSim. Ils ont conçu un programme d'entraînement à transfusion sanguine qui permet aux étudiants de se perfectionner grâce à des simulations interactives. La collaboration avec les étudiants, qui contribue à l'amélioration de la plateforme, a permis d'enrichir les contenus. De nos jours, la réalité étendue est de plus en plus utilisée dans les interventions chirurgicales, permettant aux chirurgiens de simuler des opérations complexes avant de les réaliser. Grâce à des modèles 3D et des visualisations en temps réel des organes, cette technologie permet d'améliorer la précision des gestes médicaux et de réduire les risques. Elle est également utilisée dans la gestion de la douleur et de l'anxiété. Des patients sous traitement peuvent être plongés dans des environnements immersifs pour les distraire et ainsi réduire la douleur perçue. En rééducation, cette technologie offre une méthode innovante. Ces derniers bénéficient de programmes interactifs qui suivent leur progrès, leur permettant d'améliorer leur mobilité dans les environnements virtuels motivants et personnalisés. Cela permet une rééducation plus efficace et plus engageante, tout en encourageant les patients à participer activement à leur guérison. Enfin, la VR est utilisée en médecine psychologique pour traiter des troubles comme le stress post-traumatique, les phobies ou l'anxiété, en exposant progressivement les patients à des situations stressantes dans un environnement virtuel contrôlé, facilitant ainsi l'apprentissage de la gestion du stress. Une étude menée avec un groupe de patients au sein de l'hôpital Lariboisière à Paris a montré une forte satisfaction avec un taux de 80%, prouvant une réduction significative de l'anxiété et de la douleur et un meilleur confort pendant les examens médicaux. Cette technologie est en train de transformer le domaine médical et son avenir s'annonce prometteur. À l'horizon 2026, le marché de la réalité virtuelle dans la santé pourra atteindre 40 milliards de dollars, selon une étude du cabinet Early Metrics. À l'avenir, il est possible que des interventions assistées deviennent courantes, offrant une plus grande précision et minimisant les risques. Les technologies de réalité augmentée couplées à la réalité virtuelle permettront aux chirurgiens de visualiser des informations supplémentaires pendant les interventions, augmentant ainsi la sécurité et l'efficacité des traitements chirurgicaux. D'ici quelques années, la réalité étendue pourrait également transformer la manière dont les professionnels de santé collaborent à distance. Des chirurgiens et spécialistes pourront travailler ensemble, même à des milliers de kilomètres de distance, dans des environnements virtuels collaboratifs. Cette évolution permettrait de partager des expertises en temps réel et de guider des procédures chirurgicales complexes, même dans les zones rurales où les spécialistes se font rares. Enfin, ces outils immersifs pourraient potentiellement révolutionner la médecine préventive en permettant aux individus d'explorer des simulations virtuelles de leur propre corps. Cela offrirait une meilleure compréhension de leur santé, les incitant à adopter des comportements plus sains ainsi qu'une pathologie avant qu'une pathologie n'apparaisse. Cette technologie pourrait ainsi rendre la prévention plus interactive et attrayante. En conclusion, la réalité étendue se révèle être un véritable levier pour l'évolution de la médecine, tant dans la formation des professionnels de la santé que dans les pratiques médicales quotidiennes. À l'avenir, la technologie devrait enrichir le secteur médical avec un développement continu qui promet de transformer profondément les soins et l'expérience des patients dans les années à venir. Merci.
Merci Dylan. Est-ce que vous souhaitez réagir à la suite de cette chronique ?
Ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Est-ce qu'on avait détecté, en tout cas, suite à l'expérience à Mont-Roda, c'est un petit peu la réflexion qu'on s'était faite. Et puis, on avait regardé un petit peu ce qui se faisait. On était tombé justement sur ce genre d'informations. Et on discutait aussi avec des amis qui sont art-thérapeutes, notamment. Et ça se rapproche un petit peu aussi des interventions que ces personnes peuvent faire, par exemple, en EHPAD aussi, avec des malades d'Alzheimer, etc. Ils mettent en place des protocoles d'activité, etc., qui sont assez efficient et je pense que cette techno, elle, accompagnée de médecins et tout ça, peut être vraiment efficace.
À votre avis, la XR va-t-elle transformer notre façon de travailler ou nos interactions sociales ?
Pas vraiment en fait. Je pense pas. Ça va être un outil complémentaire, comme on l'a vu même dans les différentes chroniques, que ce soit dans le médical, comme je disais, l'industrie à risque, etc. Voilà, au niveau des pratiques, pour se transposer dans un monde en toute sécurité, pour expérimenter des choses. En revanche, ouais, ce sera plutôt une autre technologie, telle que l'IA, je pense, qui, elle, vraiment va faire société ou nécessite de faire société et d'impacter nos travaux et nos métiers.
Et pour finir, quel serait votre rêve ultime en matière de XR ? Une technologie qui n'existe pas encore, mais que vous aimeriez voir naître ?
Ah ben, l'augmentation, le transhumanisme, hein, on a la puce dans le cerveau et puis on claque des doigts, on switch et on se transpose dans tous les mondes qu'on veut, on fait apparaître ce que l'on veut devant soi. Avec des petites chaussures là, en lévitation qui nous permettraient de marcher sur place et de courir 100 mètres tout en restant dans notre salon et avoir des systèmes électromyographiques qui activent nos muscles, notre épiderme et tout le bazar pour avoir toutes les sensations.
Ça fait peur.
Voilà. Ouais, dans un bon jeu vidéo, ça peut être sympa.
Merci beaucoup pour la Merci réponse à toutes ces questions. Tout de suite, une pause musicale et nous revenons après.
Et
Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, a walk about till we had him broke. We're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down. Called it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. You got your fight, leaving him alone in the broad daylight. He might get it on his own, start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight.
Broad daylight.
In the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Get your money, you get your night. Just leave me alone up in the
broad daylight.
I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight.
Broad daylight.
Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight.
Nous voilà de retour pour cette seconde partie d'émission, toujours consacrée à la réalité étendue. Cette fois, nous allons nous intéresser à son impact et à ses applications concrètes. Avec l'évolution rapide des technologies immersives, la XR s'impose comme un outil puissant, transformant des domaines aussi variés que l'industrie, la formation ou encore le divertissement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Lacan. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre formation, vos expériences professionnelles ?
Oui, alors moi je rejoins un peu Aurélien dans mon parcours, je suis un profil développeur au départ et puis j'ai fait notamment le BTS SEO du lycée technique de Mende et j'ai eu un parcours de développeur et je suis rentré progressivement par formation personnelle aussi dans l'industrie du jeu vidéo on va dire au sens large et aujourd'hui je travaille dans un studio de jeux vidéo qui fait principalement de la réalité virtuelle et augmentée etc. tout ce qui est on va dire interactif 3D qui s'appelle Novelab. Donc je travaille depuis la Lozère en télétravail avec la société qui est à Paris, Paris, Toulouse et Lyon. Voilà.
Est-ce que vous avez des projets particuliers en cours ?
Oui, on en a beaucoup. Nous, on a beaucoup de clients. Alors, je ne peux pas trop parler des projets en cours. Je peux parler des projets passés. On a travaillé beaucoup avec Meta en sortant deux jeux sur le Quest numéro 2 et le 3. Donc, on a sorti le jeu Demeter, et qui est le premier jeu en réalité mixte. On va détailler un peu après. Et on a aussi sorti Spirit Sling, pardon, qui est pareil, un jeu en réalité mixte qu'on joue comme si on jouait sur la table, mais à plusieurs et où on peut jouer à distance. Voilà.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la définition de la réalité étendue donnée par Aurélien tout à l'heure ?
Oui, alors moi, il y a beaucoup de termes qui sont assez flous, qui sont un peu marketing. Moi, si je devais le vulgariser, puisque étant un technicien, la réalité virtuelle, c'est on met ce genre de casque et on rentre complètement dans un autre univers. La réalité augmentée, ça peut être avec n'importe quoi, c'est on superpose avec un écran, donc un téléphone ou autre, on superpose à une image réelle un objet virtuel. Et ce qu'on appelle réalité mixte, c'est au travers de ces casques, des caméras vont filmer la réalité et on va pouvoir, comme avec le téléphone, mais directement sur nos yeux, avec le suivi de nos mouvements, etc., avoir un mix entre des objets virtuels dans un monde réel ou un passage du monde réel vers un monde complètement virtuel, des interactions un peu entre les deux. Voilà concrètement ce que ça veut dire, tous ces termes-là qui sont réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte.
Okay. Merci pour la définition. Quelles compétences sont aujourd'hui essentielles pour travailler dans la XR ?
Alors, ça dépend des corps de métier. Comme dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un petit peu les mêmes métiers qui vont se spécialiser, on va dire, un cran de plus sur ce domaine-là. C'est principalement du développement de plateformes de jeux vidéo. Donc, il y a deux gros outils qui s'appellent Unity et Unreal. On utilise principalement ces deux gros moteurs de jeux vidéo, mais qui servent à plein d'autres choses. Et sur des plateformes mobiles, puisque ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces casques, c'est ni plus ni moins qu'un gros smartphone. Okay. Voilà.
Concrètement, quels sont les défis techniques du développement en XR par rapport à la 3D classique ?
C'est plutôt les défis liés au mobile, comme je viens d'expliquer. C'est-à-dire que quand on est sur des gros PC qui ont une grosse puissance de calcul, on peut faire aussi de la XR. Là, le problème de la puissance s'allège et on va se rapprocher visuellement des très grosses productions de jeux vidéo qu'on peut voir aujourd'hui qui sont visuellement assez saisissantes. Par contre, quand on veut des applis vraiment autonomes et qui se déroulent sur le casque et qu'on peut emporter partout, sur un salon, dans un hôpital, chez un client ou autre, là on a des petits soucis pour avoir assez de puissance de calcul et offrir un réalisme le plus poussé possible. Voilà, c'est aujourd'hui la difficulté qu'on a, elle est ici, donc on va trouver des choses plus stylisées avec plus des couleurs, plus des couleurs allégées et moins d'ultra-réalisme, même si on commence à réussir à le faire. Tout à l'heure, Aurélien a parlé du casque d'Apple qui, lui, embarque vraiment un ordinateur très puissant. D'ailleurs, il y a une sacoche en plus, il y a un peu du bazar en plus. Et là, on est sur, en termes de puissance, sur quelque chose qui est au-dessus, en termes de tarif aussi. Donc, tout ça s'équilibre.
Le réalisme des expériences XR repose sur plusieurs éléments, graphisme, interaction, fluidité. Selon vous, quel aspect est le plus complexe à maîtriser ?
L'aspect visuel est le plus complexe à maîtriser. Alors, je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est ma partie. Donc, je pense que c'est la plus compliquée. Après, elles se rejoignent toutes et elles sont interdépendantes. Donc, quand on est dans une équipe, on travaille plutôt ensemble pour résoudre tous ces points.
Vous avez vu évoluer la 3D et la XR depuis des années. Mmh. Selon vous, quelles sont les avancées les plus marquantes de ces dernières années ?
Alors, il faut savoir, depuis à peu près 30 ans, l'industrie qui en fait tire l'informatique vers le haut, et c'est assez inconnu du grand public, c'est le jeu vidéo. Si aujourd'hui on a l'IA, c'est parce qu'on a le jeu vidéo. Et ça paraît pourtant totalement détaché, mais les microprocesseurs et particulièrement les cartes graphiques des ordinateurs, même celles des téléphones, ont atteint un taux de calcul astronomique qui est difficilement perceptible pour monsieur tout le monde. Et ça, c'est le jeu vidéo qui, depuis les années 95, a commencé gentiment, puis de plus en plus, on a pu voir des évolutions graphiques. Et aujourd'hui, cette partie-là est devenue surpuissante, à tel point que donc les GPU, on a entendu parler de Nvidia, côté en bourse, qui a perdu je ne sais pas combien de milliards avec l'IA chinoise et autres. Ben, ces technologies-là, elles sont parce que les puces graphiques servent aussi à l'IA, en fait. C'est cette architecture-là qui a vraiment été la plus grosse explosion, d'où des boîtes comme Nvidia qui existent depuis longtemps, que nous on connaît depuis longtemps, mais qui aujourd'hui émergent parce qu'elles deviennent centrales un peu partout dès qu'il faut de la puissance de calcul. L'ordinateur quantique va peut-être encore pousser plus loin de tout ça, mais aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on appelle les GPU, les processeurs graphiques, pas le CPU, mais le GPU qui vraiment a poussé très très loin ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire.
Et du coup, pour les années à venir, à quelle évolution peut-on s'attendre ?
Probablement, je miserai sur une baisse des coûts, puisque les grands acteurs du marché, comme Meta en tout cas, eux, ils souhaitent que le grand public s'approprie tout ça. Donc, une baisse des coûts. C'est difficile à prévoir. On a parlé des usages. Ça peut venir de nouveaux usages aussi. On voit qu'Apple a testé des choses, mais ils n'ont finalement pas testé des choses grand public. Ils ont testé des choses qui pouvaient aller un peu un peu dans tous les sens. Et là, ils ont arrêté. Ils vont maintenant, je pense, réfléchir un peu à comment c'est les usages. Donc voilà, je fais une réponse pas très précise sur ma vision du futur parce que ça reste assez flou. On verra aussi ce qui économiquement pilote. Là, je parlais du secteur du jeu vidéo qui a des budgets plus grands que ceux d'Hollywood, mais qui aujourd'hui est en crise. En France, il y a eu énormément de licenciements. Donc, que va donner toute cette industrie, je ne sais pas demain. Voilà.
Merci. Y a-t-il une application XR qui vous a particulièrement marqué par son innovation ou son efficacité ?
Moi, je vais être chauvin. Je veux dire que quand on a fait Demeter, c'était vraiment le premier jeu en réalité mixte. Et donc, pouvoir jouer à un jeu de plateforme mais qui s'adapte à votre appartement, voilà, c'était sympa. C'était une petite brique d'innovation. Sinon, je trouve que on a évoqué les applications en médecine. Il y a encore des choses qui tiennent de l'ordre de la communication et un peu de la science-fiction, mais il y a d'autres choses quand même qui sont vraiment concrètes. Et un chirurgien qui assiste un autre à distance au travers de, attention, où il peut dessiner sur le patient au travers chacun son casque ou autre. Là, on a des choses qui peuvent être vraiment, vraiment poussées et puis qui ont une application vraiment plus concrète que le divertissement que j'évoquais juste avant.
Le cinéma et la XR commencent à fusionner, expérience immersive, film interactif. Pensez-vous que cela va transformer notre façon de consommer du contenu ?
Peut-être. C'est l'ambition en tout cas de Meta et d'Apple, c'est que les gens, au lieu d'avoir une télé, ils se mettent le casque. Ils puissent avoir du coup une télé énorme avec tout leur appartement qui s'ambiance autour du film ou des choses comme ça. Est-ce que le public est réceptif à ça ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Les Américains, a priori, oui. Les Européens, je ne sais pas, peut-être un peu moins. Mais là, c'est subjectif. Ouais. Je sais pas.
Et est-ce qu'on peut imaginer des concerts, des spectacles ou des musées entièrement en XR à l'avenir ?
Alors, ça existe déjà. Il y a déjà des diffusions de concerts en réalité virtuelle. Vraiment, bon, on peut choisir son point de vue dans la salle de spectacle. Il y a même des artistes là qui développent. J'ai travaillé un peu sur une qui s'appelle 442 Hertz. C'est pas sorti encore, mais où le là, c'est même carrément. Je vais dire une bêtise. Il y a plus besoin de substances illégales pour partir en voyage. Là, vraiment, c'est un délire lumineux et très très immersif et très spectaculaire qui peut accompagner des artistes vraiment sur d'autres voies à explorer. Aurélien parlait tout à l'heure de point de vue. Voilà, je pense que ça peut amener des choses. Par contre, là-dessus, très très sympa. On parlait de la visite de musées. On parlait de gens qui peuvent pas se déplacer. On parlait d'aller dans des endroits à risque en toute sécurité. Voilà.
Ok, nous allons maintenant voir comment la science-fiction a anticipé cette réalité. Sarah, nous t'écoutons.
Merci Marine, bonjour à tous. La réalité étendue, qui semblait autrefois réservée aux récits de science-fiction, est aujourd'hui bien réelle. Ces œuvres, souvent visionnaires, ont su anticiper des technologies autrefois inimaginables. Prenons un exemple célèbre, Matrix. Ce film culte de 1999 explore un univers où les humains vivent dans une simulation totale. On se souvient de la fameuse citation de Morpheus « N'as-tu jamais fait un de ces rêves qui ont l'air plus vrais que la réalité ?» Bien que cette immersion complète ne soit pas encore accessible, les casques de réalité virtuelle actuels nous offrent déjà des expériences si réalistes qu'elles brouillent la frontière entre rêve et réalité. Un bon exemple, les simulateurs professionnels permettent aux pilotes et astronautes de s'entraîner dans des environnements virtuels très fidèles à la réalité, réduisant ainsi les risques lors des opérations réelles. Et que dire des jeux vidéo ? Half-Life Alyx, sorti en 2020, a révolutionné l'expérience gaming en VR. Des objets pouvant être manipulés avec une précision déconcertante, chaque interaction plongeant le joueur dans une immersion totale, c'est une évolution impressionnante. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Le concept de la réalité augmentée prend peu à peu forme au travers des projets comme le métaverse. Imaginez un monde où vous pourriez travailler, sociabiliser et jouer dans des environnements numériques créés sur mesure. Cette vision semble de plus en plus accessible, notamment avec les casques de réalité mixte et les technologies haptiques permettant de ressentir physiquement les objets virtuels. Si le film Ready Player One avait raison, nous pourrions bientôt vivre dans un univers similaire à l'Oasis, un endroit où seules les limites de la réalité sont celles de notre imagination. Et il suffit de voir l'évolution de Metaverse pour se dire qu'on s'en approche dangereusement. Ou pas, car si Meta a investi des milliards dans ce projet, l'engouement du public n'a pas été aussi fulgurant qu'escompté. L'idée d'un monde entièrement virtuel où l'on ferait tout à travers un avatar divise encore. Manque d'intérêt, technologie trop immature, cybernétose, ou simplement coût trop élevé ? Certains se demandent si le métaverse tel qu'il nous a été vendu ne finit pas par devenir un mirage technologique. En tout cas, malgré ces incertitudes, de nombreux industriels croient encore en son potentiel et continuent d'investir massivement, espérant un renouveau prochain. Cependant, ces avancées technologiques soulèvent des questions essentielles. Que se passera-t-il si nous commençons à préférer ces mondes virtuels à la réalité? Quelles sont les limites éthiques de ces simulations? La science-fiction a toujours eu aussi un rôle d'alerte sur ces risques. Prenons par exemple la question de la perception de la vérité. Avec les avatars ultra-réalistes et les deepfakes, il devient de plus en plus difficile de distinguer un être humain d'un algorithme habillé en costard. On s'approche du scénario inquiétant de la série Black Mirror où la vie numérique finit par paraître plus attractive que la réalité elle-même. Et si un jour, on s'y retrouvait piégé? Et que dire du monde physique, ou plutôt ce qu'il en reste? Car la réalité mixte, grâce à la réalité mixte, chaque mur, chaque trottoir pourrait devenir un panneau publicitaire interactif. Le Stanford Virtual Human Interaction Lab nous alerte déjà sur les dangers d'une immersion excessive. Trop de virtuel et nos repères réels risquent de disparaître. Un autre point à ne pas négliger, la sécurité. Les filtres Snapchat, par exemple, ne servent pas uniquement à vous donner un aperçu de vos cheveux en rouge ou de votre apparence dans 30 ans. Ils collectent aussi vos données biométriques, ce qui a valu à Snapchat une amende de 35 millions de dollars pour violation de la confidentialité. Et ce n'est pas mieux pour les casques de réalité augmentée, comme le Microsoft HoloLens ou l'Oculus Quest, qui écoutent, scrutent vos moindres mouvements et enregistrent potentiellement tout ce que vous faites. Enfin, la grande question, comment déconnecter de tout cela? Avec les réunions en VR, des concerts dans le métaverse et des avatars qui remplacent les interactions humaines, où commence la vraie vie? En fait, on assiste à un véritable phénomène d'escapisme qui se traduit par le fait de se réfugier dans des mondes fictifs. Et si on finissait par préférer un monde où tout est sous contrôle, sans imprévu, où l'on peut se réinventer en permanence? Est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on s'efface? La réalité étendue est-elle en train de réaliser les rêves de la science-fiction ou ses pires cauchemars? C'est un débat fascinant. Ce qui est certain, c'est que la frontière entre le virtuel et le réel continue de se dissoudre. Mais attention, n'oublions pas ce qui nous ancre dans le monde, notre humanité. Surtout, n'oubliez pas de recharger votre casque VR et de sortir prendre l'air de temps en temps.
Merci Sarah. Est-ce que vous souhaitez réagir à la suite de cette chronique?
Un petit mot. Il y avait un premier sujet intéressant qui était que l'application dans le domaine de l'aviation était importante et c'était même eux les précurseurs. Que ce soit les simulateurs de vol par écran ou par casque, donc j'abonde dans ce sens. On a vite fait évoquer le côté matériel qui progresse vite. C'est vrai qu'on est passé en quelques années de avoir des capteurs sur des pieds, il fallait en plus, donc là on a les manettes là devant nous, mais aujourd'hui on peut se passer des manettes puisque ça reconnaît les mains, enfin il y a eu quand même vraiment beaucoup d'évolutions ergonomiques là-dessus. Puis ensuite le débat philosophique, j'ai envie de dire, il est et de ces grands groupes industriels, hein, dont il ne faut pas se cacher les écueils qui étaient soulignés dans la chronique, ils sont là aussi pour faire du profit, et pas que en vendant le matériel, il faut être prudent. Par contre, bah, toutes ces machines, elles ont un bouton pour s'éteindre, hein, comme dit mon collègue Aurélien. et donc, il ne faut pas, comme la télévision, comme les réseaux sociaux, comme on peut voir un écueil dedans ou un outil, il faut peut-être apprendre à les arrêter, tout simplement. Et critiquer aussi quand on vient chercher vos données. Alors, faut faire attention quand on... J'entends parfois dire que sur les smartphones ou autres, que les grands trusts enregistrent vos conversations, enregistrent tous vos mouvements. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, qu'ils cherchent les données intéressantes, ça, c'est une évidence, oui.
Comment la science-fiction a-t-elle influencé le développement de la réalité virtuelle et des technologies immersives?
Ah, c'est peut-être un vieux rêve de l'homme, je ne sais pas, de s'échapper. C'est pareil pour l'IA, d'avoir l'humain artificiel. Donc je crois que c'est un vieux rêve de l'homme de se réinventer là-dedans. Donc c'est une des technologies qui répond à ça.
Et y a-t-il des œuvres de science-fiction qui vous ont particulièrement marqué et qui vous semblent aujourd'hui proches de la réalité?
Non, je crois que la SF, elle reste à la SF pour moi. C'est ce qui fait son charme. Voilà.
La science-fiction imagine souvent une VR où tous nos sens sont stimulés. Où on en est aujourd'hui sur cet aspect?
Le premier casque VR dans les années 60, qui s'appelait le Sensorama, avait imaginé l'odorat. Donc ça, c'était déjà rigolo. Non, pour l'instant, on s'en tient au visuel, à ma connaissance, et au toucher. Après, il y a des plateformes pour marcher et autres, mais on s'aperçoit que niveau ergonomie, c'est plus lourd que ce que c'est agréable. Aurélien a évoqué tout à l'heure des grandes salles de jeu. Où on va courir comme on jouait au paintball ou au laser game, mais là on se retrouve dans Star Wars. Et là il y a des gros essors là-dessus et un côté fun qui va pas plus loin que le visuel et on joue à quelque chose ensemble. Et en plus on se dépense, contrairement aux jeux vidéo, à la console ou au PC. Et je crois que c'est suffisant pour satisfaire nos sens. Est-ce que ça ira plus loin? Je sais pas, je le vois pas pour l'instant en tout cas. Je le vois pas.
La science-fiction présente parfois la VR comme une fuite de la réalité. Pensez-vous que cette vision est justifiée ou trop pessimiste?
Pour certains, peut-être. On a bien déjà des gens qui sont tombés amoureux d'une IA, tout en sachant que c'était une IA. Donc la nature humaine est vaste, donc pour certains, peut-être. Je pense que d'autres ne mettront même pas les yeux dedans, et c'est ça qui fait la pluralité de l'être humain.
La science-fiction imagine souvent des mondes où l'on peut vivre dans la VR pendant des jours entiers. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le cerveau humain, selon vous?
Bon, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il faut qu'on mange et qu'on boive, donc ça me paraît compliqué.
Quels sont les futurs usages de la VR que vous trouvez les plus prometteurs ou surprenants?
Prometteur, on a été assez unanime à parler de la santé, je crois. Moi, je pense à la formation. J'imagine, ne serait-ce que, je sais pas, le corps des sapeurs-pompiers qui veut s'entraîner sur un engin, il l'a pas. Aujourd'hui, ils font des manœuvres, ça coûte cher, il faut sortir les camions, il faut pomper de l'eau, ça pompe du gasoil. Alors qu'en VR, par contre, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Il y a une boîte française à Créos, là, qui est spécialiste mondiale dans le simulateur d'engins de chantier. Ils font de la VR, ils font des engins à grosse cabine avec des écrans, ils font les deux. Et donc là, il y a une énorme valeur ajoutée parce qu'on a des grues qui coûtent des dizaines de milliers d'euros rien qu'à être assemblées. Et donc former un pilote, c'est très très cher. Comme former un pilote d'avion, c'est très très cher. Donc là, il y a dans ce secteur-là de l'industrie aussi, il y a une grosse valeur ajoutée. La santé, je crois qu'on a fait le tour. Puis le divertissement. On est sur un salon, on veut faire un showroom de nos produits, mais déplacer tous nos produits, ça coûte cher. On ne peut pas tout montrer. Bon, ben, on a un casque, ça ne coûte rien à prendre. On a fait développer l'appli. Nous, c'est des choses qu'on peut faire pour des clients. Voilà. Et dedans, on met le client, il peut voir un appartement luxueux, machin. Il peut voir, je ne sais pas, une voiture, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, un petit peu tous ces usages où le réel est compliqué à mettre en œuvre. Là, la réalité virtuelle a un énorme avantage.
Selon vous, la VR pourrait-elle transformer nos interactions sociales de manière aussi radicale que l'a fait Internet?
Alors c'est ce que souhaite Meta, je pense, notamment avec le Metaverse. Pour l'instant, le Metaverse, ça a été un gros effet d'annonce avec pas de techno derrière, donc en fait, il n'y a rien. Il faut le dire concrètement, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas... voilà. Donc c'est plutôt un flop parce qu'on a voulu fanfaronner trop vite, je pense. Et c'est souvent le cas dans la communication quand elle n'est pas raccord avec la réalité. Donc je ne pense pas, moi, que ça change beaucoup. Ça peut amener des choses sympas. Je reviens quand j'évoquais, dans les années 90, on jouait dans les salles d'arcade. Bon, aujourd'hui, on peut aller faire, au lieu d'un laser game, on peut aller faire une expérience comme il y a chez Eva, par exemple, qui ont des salles un peu partout en France. Et là, c'est vraiment chouette. On peut s'éclater avec les copains pendant une heure. On se fait un match ensemble. Et voilà, donc dans le divertissement, il y a plein de choses qui peuvent être sympathiques. Dans nos relations sociales, hormis se divertir ensemble, moi je vois pas, et peut-être un peu de métaverse, mais on voit que pour l'instant c'est pas la folie, je vois pas grand-chose de plus.
Ok. Et aujourd'hui, selon vous, la VR est-elle plus proche d'un rêve ou d'un danger?
Ouais, ni l'un ni l'autre. C'est là. C'est là que, à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, chacun se fera son idée dessus.
Quel conseil donneriez-vous aux créateurs qui veulent se lancer dans la XR?
Alors, si leur ambition, c'est la technique, se former. Aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça. Ce que disait aussi tout à l'heure Aurélien, on a des beaux outils qui permettent d'être créatif sans vraiment s'acharner comme il fallait faire dans les années 2000. Donc j'invite tout le monde. Alors ensuite, pour arriver à un certain niveau, il faut être développeur, il faut être un peu graphiste, il faut un peu... Donc pour être créatif, il y a quand même des barrières. Les études, vous qui êtes étudiant, c'est déjà le premier levier. Après, moi, j'ai une grande partie d'autodidacte, donc si ça vous botte, allez-y, quoi. Voilà, il faut...
En tant que créateur, quel serait votre rêve ultime en matière de VR? Un projet que vous aimeriez voir se réaliser?
Oh, y en a plein. Moi, elles sont de l'ordre du divertissement, parce que c'est mon cœur de métier. Donc des idées d'aventures, de films, de mondes jamais vus, de choses comme ça. On en a un peu tous dans nos têtes. Et c'est quand même le moyen le plus spectaculaire qu'on ait aujourd'hui pour aller s'immerger dans des mondes inconnus. Donc je sais pas, moi j'en aurais 10 là sur la table à sortir, mais aller voir des dinosaures, se plonger dans une aventure célèbre, mais vue à la première personne, étendant, enfin il y aurait plein de choses à imaginer. Tout à l'heure on évoquait, tiens pourquoi pas en Lozère, traverser les gorges du Tarn comme un funambule a fait sur un grand câble. Faire ça, il y a déjà des jeux de planches en VR qui sont assez sympas, qui sont spectaculaires. Faire ça sur la Lozère et s'en servir comme un outil sur les salons, à la fois de spectacle et de promotion du territoire, voilà, on peut avoir des idées comme ça, sans fin. Et le tout, c'est que ce soit mettre un casque, c'est quand même un spectacle. Donc si vous avez l'occasion, que vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Toutes les applications sont plus ou moins spectaculaires, mais on peut imaginer voilà, des choses à sensation de ce type qui sont intéressantes.
Et si vous pouviez vivre une seule expérience en VR issue d'un film ou d'un livre de science-fiction, laquelle vous choisirez et pourquoi?
Ouais, je vais plutôt répondre une blague. 1984, comme ça répond à l'actu.
Merci.
Non, Ready Player One. Bon, allez, voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu.
Je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation.
Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Un immense merci à nos invités et chroniqueurs pour leur analyse et leur passion partagée tout au long de cette discussion. Un grand merci également à vous qui nous avez écoutés, que vous soyez restés jusqu'au bout ou juste de passage. On espère avoir su vous captiver, vous informer ou au moins vous avoir fait passer un bon moment. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission pour parler du numérique responsable. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.
Particules, si j'articule, tu comprendras ces mots, hélas, vrai. Je parle musique et eux parlent hit. Je suis sur le beat pour le trip et eux pour le free. J'ai ni la carrure, ni les cicatrices d'un 57, ni le dixième de son vécu, mais je distille ses rimes avec la passion qui m'anime. Et pas pour le choix unanime d'un single qui n'a ni plume ni mélodie. Juste un slogan de pub gravé dans ton crâne comme un bon produit. Je me lève, zig bou, zi, mes tympans de grooveur à full zi. Je me couche, zig, rêve, zig, fusil, mes diamants de Cubert à AZ. Yeah, j'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, ma espéliolité et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires. J'aime ces variations cuivrées, le swing des palais, le silence. J'ai mis du bleu dans mes notes, jazz et soul, on and on. Bonne vibe, on est comme tribe, on est homme. Loin des sucks, on décolle, sans code ni alcool, ça t'étonne. Il me faut un piano à cordes et stylo à ma portée, un xylo des cordes et les notes sur la portée. J'en rêve, pianissimo forte, et là je commence à douter. Tentation est forte, mes tentatives avortées. Bref, reste donc cartésien. Je suis pas Mozart, et ces accords au fond, c'est pas les miens. Je rends à César ce que bon nombre a pillé, pitché, pour faire une compo de pli. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, ma espéliolité et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches.
j'aime ces variations cuivrées. Le swing des palais, le silence.
And you're coming to the house of the jazz of the funk.
Music from the soul, y'all.
No,
that is soul.
No,
and you're coming to the house of the hip hop
jazz.